Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, La Corse, de Dorothy Carrington. L'art du portrait humain monumental est-il né en Corse? La démocratie parlementaire épuisait-elle ses racines? Dorothy Carrington l'affirme en décrivant des statues de guerriers proto-historiques qui lui furent révélées dès son arrivée dans l'île et en analysant la constitution de Pascal Paoli, sujet de ses recherches ultérieures. Ce sont là des témoignages d'une culture insulaire spécifique, fondée sur une idée élevée de l'homme. En présentant ces aspects multiples, l'auteur se réfère non seulement à l'archéologie et à l'histoire, mais surtout à ses rencontres avec des personnes vivantes, bergers, agriculteurs et pêcheurs, bardes, voyantes et guérisseuses, un bandit réhabilité, des prêtres, des notables, des intellectuels et des autonomistes. Ainsi la vie corse, parfois austère, souvent poétique et toujours imprégnée de chaleur humaine, est-elle évoquée dans le cadre d'une nature prestigieuse. Cet ouvrage a été couronné par le prix Heinemann de la Royal Society of Literature. Federica Dorothy Violette Carrington, ou Lady Rose, est née le 6 juin 1910 à Cirencester, dans le comté de Gloucestershire, en Angleterre. C'est la plus grande ville des Cotswolds. Elle se situe à quelques kilomètres de la source de la Tamise. Dorothy Carrington est la fille du major général Sir Frederick Carrington, connu pour son écrasement de la rébellion de Matabele en Rhodésie Zimbabwe, en 1897. Ses deux parents sont morts alors qu'elle n'a que 8 ans. Par la suite, elle fait ses études à Margaret's Hall, à Oxford. En 1936, elle épouse un Autrichien, Franz Otto Ressinger Waldschulz, dont les propriétés familiales en Pologne ont été détruites pendant la Première Guerre mondiale. Franz part en Rhodésie, en Afrique, où elle le rejoint pour une courte période, mais la nature sauvage ne lui convient pas. Elle retourne donc en Europe en 1937. Cependant, Franz préfère la Rhodésie. Finalement, il divorce en 1937. En seconde noces, elle épouse Darcy Sproul Bolton, qui meurt à la fin des années 1930. Elle s'imprègne alors du monde de l'art londonien et organise en 1942 une exposition aux Leicester Galleries. L'un des exposants est le peintre surréaliste Sir Francis Rose, qu'elle épouse peu après. En juillet 1948, Dorothy Carrington et Sir Francis Rose effectuent un premier voyage en Corse dans l'intention d'écrire un livre. Et à partir de 1954, elle s'installe sur l'île Ajaccio, sans Rose. Ils divorcent en 1966. En 1971, Dorothy Carrington écrit son chef-d'œuvre, Granite Island. C'est en partie grâce à son travail que les archéologues français sont incités à se rendre en Corse et étudier le fameux site mégalithique de Filitosa. L'Université de Corse lui décerne un doctorat honorifique. En 1991, et la reine d'Angleterre la fait membre de l'ordre de l'Empire britannique. Elle décède le 25 janvier 2002 à Ajaccio. Elle s'inscrit dans la tradition des écrivains français qui ont visité la Corse. Prosper Mérimée, Guy Maupassant, René Bazin, Gustave Flaubert, Théophile Gautier. Prosper Mérimée n'est pas le premier écrivain français à avoir parlé de la Corse. Mais C'est avec lui, à travers ces deux nouvelles, Matteo Falcone en 1829 et Colomba en 1840, que la Corse devient partie intégrante d'une œuvre littéraire. Auparavant, Jean-Jacques Rousseau, qui voulait doter les Corses d'une constitution, avait écrit de belles pages sur eux dans son contrat social. En France, la Corse était déjà le thème d'un certain nombre d'écrits lorsque Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, ami de Stendhal, s'avisa en 1829 d'écrire Matteo Falcone, nouvelle dont le décor, les caractères et l'action sont empruntés à une Corse qu'il n'avait jamais vue. Prosper Mérimée ne visitera la Corse qu'en 1839. Cette époque de ténèbres, que furent les premiers siècles du Moyen-Âge, prit fin en 1077, lorsque le pape, souverain titulaire de l'île depuis le règne de Charlemagne, en confia la défense à l'évêque, plus tard archevêque, de Pise. Les Pisans ranimèrent le christianisme lors d'une mission qui laissa sa marque sur toute l'île, sous forme de belles églises d'un style roman austère. Mais comme les Génois, qui avaient aidé ces derniers à expulser les Sarrasins de la Corse, convoitaient l'île, ils engagèrent les Pisans dans un conflit opiniâtre qui se termina par la destruction de la flotte pisane en 1284. Pour remplacer la souveraineté de Pise, le pape donna alors la Corse, avec la Sardaigne, au roi d'Aragon, inaugurant ainsi une nouvelle période de guerre dans laquelle les nobles Corses, dans leur ensemble, soutenaient l'Aragon, tandis que le peuple se rangeait du côté de la République de Gênes. Celle-ci sortit à nouveau victorieuse du conflit, mais les nobles Corses ne se soumirent qu'au début du XVIe siècle, après une succession de révoltes au cours desquelles ils luttèrent désespérément contre Gênes jusqu'à l'anéantissement de leur propre puissance. Mais c'était une chose d'arracher la domination de l'île aux prétendants étrangers et aux seigneurs locaux. La gouverner en était une autre. Marchant impénitent, les Génois étaient en fait curieusement incapables de comprendre les Corses ou de gagner leur respect. Les deux peuples se montraient également fiers et arrogants, mais attachés à des valeurs différentes. Ainsi étaient-ils destinés à se mésestimer. Lorsqu'au cours de sa lutte contre Charles Quint, le roi de France Henri II, de connivence avec un célèbre mercenaire, Sampiero Corso, envahit l'île, il en fit rapidement la conquête, aidé d'une grande partie de la population. Mais les Français eurent à peine le temps d'y organiser une administration que l'île fut rendue à Gênes en échange de Calais lors du traité du Cateau-Cambrésis. Pendant les 160 années qui suivirent et qui englobent tout le XVIIe siècle, les Génois gouvernèrent l'île sans être inquiétés. Ils n'ont peut-être pas fait preuve de la tyrannie implacable décrite dans certains livres d'histoire corse, mais leur système était indédiablement despotique et leurs représentants officiels, très souvent brobigaleuses dans leur propre pays, dépassaient les bornes habituelles de la corruption. Tandis que les magistrats se vendaient au plus offrant, la vendetta, forme primitive de la justice, augmentait dans des proportions alarmantes. Le contrôle sur le commerce qu'imposaient les Génois tournait toute transaction à leur profit. Les paysans étaient accablés d'impôts. Non que le régime fût totalement négatif, les Génois ne cherchèrent jamais à s'implanter en nombre dans l'intérieur de l'île. Ils restèrent en principe sur les côtes, pour la plupart groupés dans les ports. Bonifacio, Calvi, Bastia, Saint-Florent, Ajaccio, Algarola, villes forteresses qu'ils avaient construites chronologiquement dans cet ordre. Les communes rurales étaient chargées de leur propre administration et, de ce fait, jouissaient d'une indépendance considérable. Si les Génois s'y intéressaient, en dehors des affaires du fisc et de justice, c'était pour encourager l'agriculture. Et cette action fut suffisamment efficace pour permettre l'évolution d'une classe de notables ruraux relativement prospères et cultivés. C'était eux, pourtant, qui souffraient le plus des monopoles commerciaux détenus par les Génois et qui devinrent les ennemis les plus acharnés de la République. La révolte nationale corse éclata spontanément en 1729 et les Génois furent bientôt confinés dans les villes côtières. Une lutte sporadique n'en continua pas moins pendant les 40 années qui suivirent, selon un processus qui nous est devenu familier dans les guerres coloniales. Les deux parties furent aidées, à différentes époques, par des puissances étrangères. De temps à autre, des règlements du conflit furent proposés et rejetés. Pendant ce temps, les chefs corses entrèrent en scène, des systèmes de gouvernement national furent adoptés et la nation corse prit forme à travers une succession de tentatives et d'erreurs. Il y eut pendant 8 mois l'intermède fantaisiste du règne de Théodore de Neuhoff, un aventurier international d'envergure qui apporta des secours aux insurgés et les incita ainsi à le couronner roi, sans toutefois réussir à se maintenir. Mais en Pascal Paoli, les Corses trouvèrent un chef à la mesure de leur aspiration. Élu général en chef de l'insurrection en 1757, il donna à son peuple une constitution en harmonie avec les idées les plus éclairées du siècle. Néanmoins, cette courageuse expérience n'aboutit à rien. Le 15 mai 1768, par le traité de Versailles, Gênes vendait à la France sa souveraineté sur la Corse. L'armée française arriva en force sur l'île et en mai 1769, après une lutte âpre et désespérée, les patriotes furent écrasés et Paoli s'enfuit en Angleterre. Devenue province française, la Corse n'accepta pas sans difficulté le gouvernement absolutiste de l'Ancien Régime. Son intégration définitive à la France semblait pourtant réalisée lorsque, à l'heure de la Révolution, le 30 novembre 1789, l'île fut déclarée à jamais partie intégrante de la France, selon le vœu exprimé par ses propres représentants. Mais, revenu d'exil, Paoli, qui dominait par son prestige le département de la Corse, se prit de querelle avec la Convention et, suivi d'une grande partie de la population, sollicita la protection de la Grande-Bretagne. Les Anglais firent plus qu'il ne leur était demandé. En 1794, George III proclama un royaume anglo-corse, avec pour vice-roi non pas Paoli, mais Sir Gilbert Elliot. Leur comportement maladroit envers le père de la nation causa un mécontentement compréhensible. Paoli fut à nouveau exilé. Et en septembre 1796, la chance ayant tourné dans la guerre en Méditerranée, les Britanniques évacuèrent la Corse en toute hâte, tandis que Napoléon y envoyait des troupes. Depuis lors, les Corses se sont montrés des citoyens français loyaux et souvent remarquables. Ils ont joué un rôle non négligeable dans la politique et dans la colonisation des possessions d'outre-mer et se sont battus avec courage dans les guerres. La France, tout en ne faisant que peu de choses pour développer la Corse, a régulièrement accueilli ses habitants dans les services publics et les forces armées. Ainsi, de nombreux Corses sont-ils parvenus à des postes élevés en France continentale et dans les colonies, tandis que l'île se dépeuplait progressivement. La prospérité relative qui découlait de la paix française et qui atteignit son apogée sous Napoléon III fut ruinée ultérieurement par la concurrence commerciale de produits peu chers venant des colonies et des usines du continent. Privée à la fois de main-d'œuvre et d'investissement, l'économie corse s'effondra dans le dernier quart du XIXe siècle, entraînant un exode accéléré des habitants. La Première Guerre mondiale lui donna le coup de grâce. Quelques 20 000 hommes, dit-on, y perdirent la vie. De grandes étendues de terre tombèrent en friche. Les villages se vidèrent. Cependant, cette population pauvre et diminuée resta profondément attachée à la France. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Corses organisèrent une résistance redoutable qui contribua à libérer l'île de l'occupation ennemie dès septembre 1943. Thank you. L'histoire de la Corse, long récit de discorde et de déception, éclaire grandement sa condition actuelle. Elle explique l'allure revêche des villages situés sur les pics et les crêtes montagneuses, où presque chaque maison a la silhouette d'une forteresse, ainsi que les vallées, tout en friches et les hectares de maquis abandonnés. Pourtant, les effets du passé n'ont pas tous été désastreux. Les Corses ont puisé énergie, orgueil dans leur lutte. Ils ont appris à défendre leurs propres valeurs. Selon le mot de Napoléon, ils ont compris que si la mort est un des états de l'âme, l'esclavage en est l'avilissement. Contre des forces infiniment supérieures, la population a défendu ses libertés fondamentales. La justice a été sauvée grâce à ce code implacable que représente la vendetta. Si beaucoup ont été tués injustement, le principe même de la justice a été sauvegardé. Des gouvernements incapables et tyranniques ont suscité des innovations hardies en matière de politique. Les systèmes de gouvernement autonome de la Révolution corse, la constitution de Paoli, les divers essais constitutionnels qui l'avaient précédé, avec leur caractère novateur, étaient la conséquence de la mauvaise gestion de Gênes. En écrasant la noblesse insulaire, les Génois avaient en effet encouragé l'instauration d'institutions égalitaires et, ce faisant, favorisé l'épanouissement d'un système communautaire qui existait de tout temps dans les villages et qui servira de base aux expériences constitutionnelles du XVIIIe siècle. Malgré l'évolution d'une classe de notables qui cherchait à se substituer aux nobles dépossédés, les différences de fortune restèrent bien moins marquées en Corse que dans les pays voisins. Si le niveau de vie insulaire a toujours été médiocre, en revanche, le dénuement a été rare. L'égalité dans la pauvreté et la frustration faisaient partie de l'héritage des Corses. Certains l'acceptaient avec un stoïcisme résolu, d'autres réagissaient avec énergie. Ce peuple a toujours oscillé entre le fatalisme et un désir brûlant de s'affirmer. La résistance à la domination étrangère a encouragé la ruse et des méthodes machiavéliques qui ont souvent handicapé les desseins des Corses eux-mêmes, mais elle a favorisé aussi des entreprises hardies. En fait, la plupart des chefs corses ont été victimes de leur propre ambition. Ils visaient haut, mais ils ont accompli de grandes choses avant leur échec final. Ceux qui cherchaient à réaliser leur ambition dans l'île même couraient très vite à leur perte, parce qu'ils se gênaient les uns les autres, trop nombreux à vouloir jouer les premiers rôles sur une scène trop étroite. Mais ceux qui formaient à la dure école des rivalités corses ont fait carrière hors de l'île, ont souvent connu de brillantes réussites. Dans le vieux quartier d'Ajaccio, juste derrière les cafés des pêcheurs, se trouve la maison où naquit celui qui fut, de tous les Corses, le plus ambitieux et le plus célèbre. La Casa Bonaparte est une demeure assez vaste, datant, semble-t-il, du XVIIe siècle, et agrandie à plusieurs reprises par la suite. Un édifice en forme de L, aux lignes simples, donnant sur d'étroites ruelles. Lorsque je la visitais, le jour de mon arrivée à Ajaccio, je me sentis un peu déçu par son air d'embourgeoisement compassé. Seul un des trois étages était alors ouvert au public. Les pièces, sombres malgré leurs hautes fenêtres, étaient meublées de chaises, de canapés et de lits du XVIIIe siècle français, d'un style cérémonieux et de qualité moyenne. De grands miroirs blafards, dans des cadres de bois vernis, étaient accrochés aux murs tendus de brocart. Mais plus tard, quand je me suis familiarisé avec les débuts de Napoléon, j'éprouvais un sentiment poignant dans cette maison de famille à l'atmosphère enfermée, avec son air prétentieux, assez touchant au fond, où un couple impécunieux se débattit pour mener une vie raffinée dans un pays aux manières rudes et donner à ses 8 enfants un bon départ, comme font les gens fortunés. Les parents de Napoléon s'animent dans ce décor guindé. Charles Bonaparte, bel avocat remuant et prodigue, politicien habile et joueur. Laetitia, sa femme, une Corse indomptable et désenchantée, douée de cette détermination inflexible qui caractérise ses semblables. Dès le début de leur mariage, ils durent faire face à des crises politiques répétées. Et avec l'habileté qui leur était naturelle, ils surent s'en servir pour assurer leur promotion sociale. Leur fils aîné, Joseph, était né à Corté, capitale de la Corse indépendante, située dans les Hautes-Terres, où Charles Bonaparte, secrétaire de Paoli, fréquentait en même temps l'université qui venait d'y être fondée. Laetitia était déjà enceinte de 6 mois de Napoléon, lorsque les patriotes corses furent vaincus par les Français. Battant en retraite devant l'armée victorieuse, Charles et Laetitia franchirent à dos de mulet les montagnes du centre pour rejoindre Ajaccio. Si les influences prénatales jouent un rôle sur le caractère des enfants, cette odyssée pourrait expliquer bien des choses dans la carrière de Napoléon. Cependant, son bon sens permit à Charles de s'accommoder du changement de régime et il s'employa à faire rapidement reconnaître officiellement son origine aristocratique. L'ironie du sort voulut qu'il descendît en droite ligne d'un soldat génois installé à Ajaccio vers la fin du XVe siècle, époque de la fondation de la ville. Celui-ci ne fut, semble-t-il, qu'un simple mercenaire, bien que les Bonaparte, du temps de Charles, furent persuadés qu'ils comptaient parmi leurs lointains ancêtres des patriciens florentins. Sa qualité de noble fut un des facteurs qui permirent à Charles d'obtenir la faveur du comte de Marbeuf, commandant en chef des troupes françaises en Corse, et par la suite une invitation à la cour de France comme député de l'ordre de la noblesse des États de Corse, ainsi qu'une bourse pour Napoléon à l'école de Brienne, puis à l'école royale militaire de Paris. Il obtint également de Marbeuf des promesses de protection pour Joseph, destiné alors à l'état ecclésiastique, et une autre bourse pour sa fille Élisa à Saint-Cyr, établissement réservé aux jeunes filles de l'aristocratie française. Cela constituait une éducation fort privilégiée à une époque où tant de jeunes filles corses et des meilleures familles restaient illettrées. Tel fut donc l'environnement de l'enfance de Napoléon. Depuis son protecteur, la sauvegarde des apparences, mais aussi l'insécurité, les dettes et la nécessité de réussir. Comme dans beaucoup de familles corses, la réussite était considérée comme un devoir des enfants, non seulement envers leurs parents, mais envers le groupe familial tout entier. Et pourtant, comment Charles et Laetitia, tandis qu'ils manœuvraient pour assurer l'avancement de leur famille, auraient-ils pu imaginer que ces enfants rassemblés autour de la table familiale pour leur repas rustique, du chevreau, de l'agneau, du fromage de chèvre, de leur troupeau, des cerises, de leur verger, étaient destinés à devenir des rois et des reines, ou que ce fils qui se chamaillait sans cesse dans les rues voisines deviendrait empereur des Français et l'un des plus grands capitaines que le monde ait connu. L'intérieur de la maison Bonaparte a beaucoup changé depuis le temps où Napoléon y vivait enfant. Lorsque Paoli, au retour de son premier exil en Angleterre, rompit avec le gouvernement français et déclara la Corse indépendante pour la seconde fois, les Bonaparte se retrouvèrent du mauvais côté. Menacée par les partisans de Paoli, Laetitia, devenue veuve, s'échappa de nuit avec les plus jeunes de ses enfants, tandis que les paulistes mettaient la maison à sac. La famille en apparence ruinée s'enfuit avec l'aide de Napoléon à Toulon. 4 ans plus tard, Paoli et les Anglais ayant quitté l'île, Laetitia et Joseph étaient de retour à Ajaccio et rénovaient la maison en refaisant la décoration pour la rendre digne de leur nouvelle situation sociale, due au triomphe de Napoléon dans la campagne d'Italie. Mais lui-même ne passa qu'une semaine à banqueter avec sa suite et quelques anciens partisans dans ce nouveau décor lorsqu'il visita Ajaccio pour la dernière fois lors de son retour d'Égypte. À cette époque, Laetitia s'était déjà installée à Paris et aucun Bonaparte ne devait jamais plus habiter la maison familiale. Les douloureuses épreuves que subit Napoléon lorsqu'il fut chassé de l'île avec les siens le marquèrent pour la vie. Dans sa jeunesse, il était un ardent patriote corse, comme ses écrits de l'époque le prouvent abondamment. Mais être obligé de s'enfuir de son pays natal avec sa famille, voire sa maison pillée, sa réputation souillée, sa position ruinée et son avenir compromis représentaient un affront intolérable. Cela explique sans doute un fait qui ne peut manquer de surprendre le visiteur à Ajaccio. L'indifférence de Napoléon pour la Corse. Il est vrai qu'il y réduisit les impôts par les concessions comprises dans les arrêtés Millot de 1801 et le décret impérial de 1811, mais l'on s'attendrait à trouver quelques preuves tangibles de sa générosité. Ayant fait d'Ajaccio le chef-lieu de l'île, il aurait pu, par exemple, en redessiner les plans, en y ajoutant des jardins d'agrément, des statues, des fontaines et des arcs de triomphe, ou du moins l'embellir avec une partie du butin rapporté d'Italie. Ainsi, aurait-il pu doter sa ville natale d'un aspect mieux adapté au nom que les Corses devaient lui donner par la suite, la cité impériale. Mais les améliorations effectuées sur ses ordres furent strictement utilitaires. De nouvelles adductions d'eau, le plan de nouvelles rues, voilà des travaux qui conviennent mieux à un maire consciencieux qu'à l'empereur des Français. Seuls, des souvenirs très amers de ses expériences de jeunesse peuvent expliquer pareille négligence. Ce ne fut que très tard, trop tard pour la Corse et pour lui-même, que ses griefs se sont effacés, noyés dans des humiliations bien plus douloureuses durant son exil à Sainte-Hélène, lorsqu'il se souvint de l'odeur du maquis et exprima le vœu, si l'enterrement à Paris lui était refusé, de reposer auprès de ses ancêtres dans la cathédrale d'Ajaccio, ainsi qu'il est inscrit sur une plaque de marbre. Plus tard, on fit don à la ville d'un moulage en bronze de son masque mortuaire. Le visage est plus noble et plus fin qu'il n'apparaît dans ses derniers portraits. On peut le voir de nos jours au musée napoléonien, une salle située à l'étage supérieur de l'hôtel de ville qui ressemble moins à un musée qu'à un salon de l'ancienne mode, plein de bustes et de portraits de plusieurs générations de Bonaparte, depuis les parents de Napoléon jusqu'au malheureux fils de Napoléon III, tué dans la guerre contre les Zoulous. Le portrait le moins évocateur est l'immense et lugubre toile de Gérard qui représente l'empereur en costume du sacre. C'était la chronique littéraire de Gilles Laboureur. À bientôt.